le magazine des Nations Unies.
La RDC approche les 4 millions de déplacés internes. Le ACR avance le chiffre de plus de 3 700 000, chiffre qui place le pays au premier plan mondial. Comment comprendre la montée de ce phénomène? Les explications dans cette édition. Un autre phénomène, c'est la grippe aviaire déclarée en Ituri, l'épizootie tue volailles ou oiseaux sauvages, privant ainsi la population de moins des substances. La FAO et le gouvernement se mobilisent pour contrer l'épidémie. Enfin, rapport mondial du développement durable 2016, la RDC garde sa place de 2015, 176e sur 188. Pour le futur, le pays veut organiser une conférence des bailleurs avec ses partenaires internationaux en vue de la mobilisation des moyens pour la mise en œuvre de ses priorités liées aux ODD, objectifs du développement durable. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. Selon le bulletin d'information du Haut Commissariat pour les réfugiés daté du mois d'avril, la RDC approche le chiffre de 4 millions de déplacés internes. Elle compte aujourd'hui un peu plus de 3 700 000 déplacés internes. Comment expliquer cette montée? Des explications avec Jean-Pierre Elali Coco.
Selon les Nations Unies, la violence dans les Kassai a poussé des familles entières à fuir leur foyer. Début avril, les Kassai a franchi la barre d'un million de déplacés internes. Les affrontements entre milices et forces armées congolaises ont poussé également plus de 11 000 Congolais à se réfugier vers l'Angola, indique la même source. Ce chiffre est venu s'ajouter à plus de 2 millions de déplacés internes enregistrés dans l'Est, où des dizaines de groupes armés s'affrontent depuis des années pour le contrôle des ressources naturelles. Ce chiffre qui approche les 4 millions de déplacés internes place la RDC au premier plan des pays en termes, bien sûr, des déplacés internes, d'après le Conseil norvégien pour les réfugiés. Pour Ulrika Braun, directrice de cette organisation en RDC, le nombre de déplacés au Congo-Kinshasa, c'est plus que les personnes déplacées dans les conflits en Syrie et au Yémen. Par ailleurs, dans les chapitres de réfugiés en RDC, les réfugiés rwandais sont en tête du peloton. Ils sont 245 000 en référence au résultat d'un pré-enregistrement initial effectué par la Commission nationale pour les réfugiés de décembre 2014 à janvier 2015.
Nous lisons dans le sommaire le rapport mondial de l'indice de développement humain 2016 du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, a été rendu public en RDC jeudi 8 juin dernier à Kinshasa. La RDC a gardé sa 176e place de l'année antérieure. Honoré Misenga Kalala suivit pour nous la présentation de ce rapport.
Le ministre d'État et ministre du Plan, Modeste Bahati Lukwebo, a représenté le gouvernement congolais à cette présentation. Il avait à ses côtés pour les Nations Unies le représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur humanitaire en RDC, Dr Mamadou Diallo, ainsi que la directrice pays du PNUD, Mme Priya Gajraj. Deux discours pour le protocole. Le ministre d'État dit que le gouvernement congolais a tiré les leçons du programme des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, dont la RDC n'a atteint aucun objectif. En conséquence, le gouvernement congolais appelle ses partenaires bilatéraux et multilatéraux à coordonner leurs interventions dans l'appui aux priorités définies par la RDC dans la mise en œuvre des ODD. Le gouvernement attend donc ses partenaires, poursuit le ministre d'État, de l'accompagner à organiser une conférence des bailleurs pour la mobilisation des financements publics et privés. Parlant des ODD, Dr Mamadou, pour sa part, souligne que leur adoption en septembre 2015 et l'accord de Paris sur le climat traduisent une prise de conscience grandissante de la place des peuples dans la marche du monde et la construction d'un avenir meilleur pour toutes et pour tous. Et du rapport mondial développement 2016 lui-même, on peut retenir, notamment pour la RDC, que le pays garde sa place de l'année 2015, 176e sur 188, derrière l'Éthiopie, le Mali, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville, l'Angola et le Kenya, entre autres.
Autre fait d'actualité de la semaine, une épizootie de grippe aviaire déclarée dans la province de l'Ituri. L'information a été communiquée mercredi à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, à Kinshasa donc, par Fabien Lefebvre du groupe de communication du système onusien en RDC. Suivez les communicateurs des Nations Unies dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali.
La grippe aviaire est une maladie contagieuse causée par un virus influenza de type A qui peut toucher presque toutes les espèces d'oiseaux, sauvages et domestiques. Dès l'annonce de mortalité importante de volailles à Djo et Café, province de l'Ituri, une équipe conjointe du Centre d'urgence pour les maladies animales transfrontières de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et du gouvernement s'est rendue sur place pour effectuer un diagnostic et renforcer les capacités des services vétérinaires locaux. Ces agents de terrain ont été formés à la détection de la maladie et à l'abattage de la volaille contaminée. Toutes les personnes qui travaillent dans le secteur avicole ou vendeurs de volailles ont une responsabilité à assumer à cet égard. Il est donc impératif de signaler toute mortalité suspecte de volaille aux services provinciaux de l'agriculture, pêche et élevage.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Comment contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations chimiques et nucléaires à haut risque et lutter contre l'usage à des fins criminelles des matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires en RDC sont en tout cas les sujets abordés au cours d'un séminaire d'évaluation du projet 42, organisé du 5 au 6 juin par le Centre d'excellence RDC avec l'appui de l'Union européenne et sur base de la résolution 1540 des Nations Unies. Édouard Botobokonda, coordonnateur du Centre d'excellence RDC, se livre aux questions de Jean-Pierre Lali-Coco.
Monsieur Édouard Botobokonda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, nous venons d'assister à l'ouverture d'un séminaire de 2 jours avec l'appui de l'Union européenne et sur base de la résolution 1540 des Nations Unies. Que peut-on alors retenir du but de ces séminaires et aussi du projet 42? Parce qu'on en parle beaucoup.
Il y a d'abord les enjeux mondiaux. Les enjeux mondiaux sont aujourd'hui les terrorismes. Les enjeux mondiaux sont aussi la maîtrise de la gestion des matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Ce sont des défis communs auxquels le monde fait face à leur filet. Aussi, sur base de la résolution 1540, il a été recommandé à tous les pays de mettre en place des systèmes pour éviter que des organisations non étatiques puissent posséder ces matières souveraines. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut placer la naissance ou la création de centres d'excellence chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Empêcher toutes ces organisations non étatiques de posséder ces matières et de travailler pour l'atténuation des risques liés aux matières chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires, quelle que soit leur origine. Parce que les risques peuvent être d'origine naturelle, pandémie comme l'Ebola, le choléra et autres. Il y a de l'origine accidentelle, le manque de sécurité dans nos usines, dans nos laboratoires, dans nos centres de recherche. Et puis, il y a l'origine criminelle, c'est-à-dire des individus qui utilisent à des fins vraiment criminelles, alors des terreurs, ces matières-là. Alors c'est comme ça que nous travaillons pour les empêcher, nous travaillons pour renforcer les capacités de nos experts dans cette matière-là, nous travaillons pour donner la réponse en cas d'un incident qui arriverait suite à une mégestion ou à une imprudence humaine causée par ce matériel-là.
Voilà, on a parlé de l'évaluation sur la sécurité et la sûreté liée à ces risques et puis on a parlé du projet 42. Est-ce que vous pouvez expliquer ça aux gens, aux auditeurs qui nous suivent?
C'est dans ce contexte là que nous mettons en œuvre avec la collaboration et l'appui de l'Union européenne, le projet 42. Le projet 42 est intitulé « Sûreté et sécurité chimique dans les pays de l'Afrique centrale et de l'Est ». Il s'agit de voir d'abord quels sont les textes législatifs qui régissent le secteur chimique en RDC. Sont-ils efficaces? Sont-ils adaptés? Et conformément aux recommandations internationales, avons-nous souscrit? Et quelle est la mise en œuvre de toutes ces recommandations internationales par rapport à la sécurité chimique en RDC Congo? Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, il est d'ordre de renforcement des capacités. Par des formations, nous renforçons, avec les experts du Centre commun de recherche de l'Union européenne, les capacités de nos chimistes. Donc, nos chimistes doivent être au même diapason que des chimistes occidentaux. Nous voyons aussi l'aspect des réponses aux incidents chimiques. Quand un incident chimique se produit, comment intervenir? L'unité de coordination, les moyens, les structures et tactiques institutionnelles établies, sont-ils capables d'intervenir? Sont-ils disposés? Ont-ils des moyens, des équipements susceptibles de leur permettre de faire face à un incident chimique? Et puis, nous allons voir tout ça dans le cadre de ce projet-là. Et nous avons déjà vu et nous sommes en train d'évoluer.
Et voilà, le centre d'excellence dont vous êtes les coordonnateurs a à son actif quelques réalisations. pas donner toutes les réalisations, mais les réalisations principales.
Je vais prendre seulement à titre indicatif. Il y a d'abord la mise sur pied, la mise en place d'un réseau d'experts CBRN. Donc, les experts qui travaillent dans le domaine de l'atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Aujourd'hui, nous avons mis en place cette plateforme-là qui analyse, qui conçoit des stratégies pour atténuer les risques liés à ces matières-là. Ça, c'est le premier acquis. Le deuxième acquis, vous savez, la sensibilisation des problèmes liés aux risques CBRN auprès même de nos autorités politiques, parce que le terme CBRN passe pour un néologisme pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous sommes en train de vulgariser cela. Et une fois que ces termes sont vulgarisés, ça renvoie à la sécurité. Ça renvoie à la sécurité, à une culture de sécurité que nous avons déjà ensemencée auprès de nos autorités et de la population. En outre, nous avons mis en œuvre le projet 33. C'est un projet énorme, efficace, qui a même doté nos primo-intervenants. Quand c'est les primo-intervenants, ce sont des services qui interviennent en premier lieu en cas d'un incident de nature, soit chimique, soit biologique, soit nucléaire. Aujourd'hui, nous leur avons donné, nous avons des équipements pour et à leur donner. Et avant cela, nous avions donné des équipements pour renforcement des capacités techniques à nos services qui œuvrent dans le poste frontalier. J'ai cité la douane, la migration, l'ANER et les centres de recherche tels que le CRENCA, le CNPRI, qui est l'organe de réglementation en matière nucléaire. Nous leur avons doté des équipements de détection pour lutter contre le trafic illicite des matières CBRN, les équipements de haute technologie.
Oui, des équipements de haute technologie. Quelles sont vos ressources pour financer tout ça?
Bon, écoute, le centre d'excellence, d'abord, comme je vous ai dit, c'est une initiative de l'Union européenne, conjointement mise en œuvre par les Nations unies au travers l'UNICRI. Alors, ce sont ces partenaires-là qui nous aident dans ce cadre précis, font des donations à nos services.
Une question tout à fait pratique. Une certaine presse a parlé du centre nucléaire qui, selon cette presse, a fait l'objet de quelques soucis ou des risques par rapport aux érosions qui n'ont menacé. Quelle a été l'action de votre centre pour atténuer ces risques?
Oui, nous travaillons avec le CRENCA, surtout que nous relevons tous d'un même ministère.
De la recherche scientifique.
Donc le centre d'excellence relève et le CRENCA est membre du réseau d'experts dont je venais vous parler. Et nous appuyons les activités de ce centre-là. Je crois qu'en termes d'érosion, c'était une fausse alerte.
Pourquoi?
Parce que le gouvernement a déjà mis des moyens il y a longtemps pour sécuriser ce site-là. Et à l'heure qu'il est, le site est sécurisé. Et puis nous sommes un organisme d'appui. Nous venons en appui. Je vous ai dit que nous leur avons donné des équipements pour la détection et pour la lutte contre le trafic illicite. Nous leur donnerons encore d'autres équipements dans le cadre du projet 60 sur la sécurité nucléaire. Et nous travaillerons aussi avec leurs experts pour essayer de renforcer leurs capacités. Et je sais que c'est un site qui a été créé il y a longtemps. Donc, certains experts ont besoin de voir leur science renouvelée.
Toute dernière question sur la périodicité du projet 42. Ce projet devrait commencer en 2015, comme vous le savez.
Oui.
Pour se terminer en 2018, il n'a été mis en œuvre qu'en 2016. Alors, comment vous allez mettre en œuvre toutes ces articulations en si peu de temps, le temps qui est de 36 mois seulement?
Le temps est de 36 mois, quand vous faites les calculs, 36 mois c'est 3 ans. Ce projet a une durée de 3 ans. Bien que nous l'ayons lancé en retard, mais il va s'exécuter pendant les 3 ans. Et toutes les articulations ont un timing précis et nous respecterons ce timing.
Edouard Botobokonda, Radio Capi, vous remercie.
Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je crois que vous serez toujours à mes côtés.
Et c'est par les droits de l'enfant que nous ouvrons cette page. 40 cas de violation des droits de l'enfant enregistrés du 29 mai au 5 juin 2017 dans le contexte des conflits en RDC. Constat de la section protection de l'enfant de la MONUSCO, fait particulièrement dans l'est du pays, où des enfants ont été victimes, notamment des cas d'enlèvement, des violences sexuelles, ainsi que d'attaques contre les écoles et les hôpitaux. Ces violations sont attribuées aux groupes armés Nyatura, FDLR Fouka, Mai Mai Charles, FRPI, Mai Mai Mazembe, Raïam Tomboki, Corps du Christ et Arme 23. En Ituri, environ 91% des femmes souffrant de fistules obstétricales sont abandonnées à elles-mêmes, d'où ce plaidoyer des autorités sanitaires locales répercuté par OCHA pour la prise en charge de ces femmes. La source indique que près de 9250 femmes souffrant de fistules obstétricales ont été enregistrées dans cette province en 2016, mais seulement 10% d'entre elles, soit environ 844 femmes, ont été prises en charge. Enfin, le parquet près le tribunal de paix de Béni se dote d'une salle d'attente pour visiteurs et justiciables. Œuvre de la section appui à la justice et à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO dans le cadre des projets Impact Rapide de la mission. L'ouvrage a été remis mercredi 7 juin et permettra donc au tribunal, notamment, d'isoler des témoins en attente de leurs audiences. On rappelle que le projet a coûté à la MONUSCO près de 7 000 $ américains.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La journée mondiale de l'environnement consacrée le 5 juin a été célébrée à Kinshasa lundi dernier sur les sites du campus de l'université de Kinshasa, précisément à l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux, ERAIFT. La MONUSCO avec son chef, Oman Sidikou, le PNUD et d'autres agences onusiennes ont été représentées à ces manifestations. En marge de cette journée, Idesbald Chinamula, expert au programme des Nations Unies pour le développement PNUD, s'est entretenu avec Honoré Missenga Kalala sur la question. Suivez.
Idesbald Chinamura, bonjour.
Bonjour.
Le 5 juin, journée mondiale de l'environnement, quel est l'intérêt de cet événement?
Oui, l'intérêt de cet événement, c'est de saisir cette opportunité pour renforcer le plaidoyer et la sensibilisation sur toutes les questions liées à l'environnement.
Le thème de cette année?
Le thème de cette année, c'est rapprocher les gens de la nature, la rapprocher les hommes et les femmes de la nature.
Et le sens de ce thème?
Le sens, c'est encore une fois saisir cette opportunité pour montrer combien est importante la nature pour les hommes et montrer que les hommes que nous sommes, nous constituons en fait une partie de la nature. Sans la nature, notre existence ne saurait se justifier sur cette terre. Et donc la nature est notre allié le plus radical et notre allié aussi le plus fidèle avec lequel nous devons poursuivre la vie si nous voulons maintenir ici sur la terre.
Vous êtes expert du PNUD. Quel est le rôle de l'environnement par rapport aux ODD?
Oui, comme le disait notre directeur pays du PNUD, les ODD, c'est 17 objectifs. Quand vous regardez bien la composition de ces objectifs de développement durable, les ODD, vous allez constater que plus de la moitié des ODD se rapportent aux questions liées à l'environnement. Que ce soit le tout premier ODD qui est l'élimination de la pauvreté. Aujourd'hui, il y a un lien direct entre la pauvreté et l'environnement. L'ODD 2 qui est lié à la sécurité alimentaire, c'est également un problème de l'environnement. Quand vous allez à l'ODD 5 lié aux questions des genres, l'égalité des genres, c'est aussi un problème de l'environnement. ODD 7 lié à l'énergie, c'est encore les questions de l'environnement. L'ODD lié, par exemple, aux questions des communautés et villes durables, c'est encore un problème de l'environnement. Maintenir la vie sur Terre, ainsi de suite, et jusqu'à l'ODD 13, qui lui consacre cette fois-là les questions des changements climatiques. Mais vous avez sur toute la ligne toutes les questions de l'environnement. En fait, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, les questions de l'environnement ne sont plus une question qui appartient à un seul secteur, à un seul ministère. C'est vraiment un message fort que nous voulons passer et que nous avons passé aujourd'hui.
La RDC doit réfléchir à sa trajectoire de développement dans le cadre de sa croissance économique tout en protégeant l'environnement. Propos du directeur pays du PNUD la semaine dernière en prélude à la cérémonie d'aujourd'hui. Pouvez-vous expliciter cette pensée, M. Idesbald?
Oui, comme le disait notre directeur pays, la RDC est à la croisée des chemins en ce moment. C'est un pays qui est en train de définir des politiques de développement. Il y a une stratégie nationale de développement qui vient d'être définie, ce qu'on appelle le PNSD, Plan National Stratégique de Développement, qui est en train de projeter les pays à l'horizon 2025, 2030, 2050. Alors, il faut faire des choix importants. C'est vraiment le moment de faire ces choix-là. Quel type de politique? Sur quoi va se reposer les choix politiques sectoriels qui vont être faits en termes d'accès à l'énergie, en termes de politique agricole, en termes de ressources forestières, en termes aussi d'aménagement du territoire? C'est des questions importantes qui vont définir l'utilisation des ressources. La façon dont on définit aujourd'hui l'aménagement du territoire, comment va être utilisé l'espace, affecter l'utilisation des ressources naturelles. Donc, il est important qu'on se mette d'accord, qu'on fasse des arbitrages vraiment importants en ayant à l'esprit qu'il faut préserver les ressources naturelles, qu'il faut également promouvoir le développement de manière équilibrée pour toutes les provinces de la RDC.
Le choix, par exemple, la problématique qui se passe aujourd'hui avec le parc de Virunga, avoir besoin du pétrole qui est sous-sol ou alors préserver la nature?
Oui, ça c'est un cas typique vraiment qui nous montre effectivement l'enjeu même de toutes les questions liées au développement durable. C'est des choix rationnels, mais des choix également issus d'un consensus. Il faut que les gens discutent discute, il faut que les différents secteurs se mettent d'accord. Parce qu'effectivement, il y a un tiraillement entre les ministères des mines, les ministères des hydrocarbures, les ministères de l'environnement, mais aussi les communautés locales qui sont tout autour. Il y a aussi une pression forte aussi du gouvernement qui a besoin des revenus, des dividendes, des rentrées financières à court terme en ce moment pour répondre aux besoins, aux déficits dans le budget de l'État. Donc toutes les questions de ce devoir, est-ce que nous voulons axer le développement de ces pays sur des perspectives à court terme ou à long terme? Et à court terme, c'est vrai qu'on va avoir des dividendes, mais à long terme, qu'est-ce que ça va donner? Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse qu'est-ce qu'on gagne à court, à long et à moyen terme et comment on peut concilier tout ça. C'est possible de concilier. Il y a des moyens de concilier au niveau des parcs du Virunga, de garder le parc qui va attirer, qui attire suffisamment des touristes en ce moment et qui constitue un joyau pour la RDC, tout en préservant les ressources naturelles qui sont également dans le sol et les sous-sols. Donc il est possible effectivement de concilier, de trouver d'autres alternatives. Un exemple, c'est la RED, 200 millions la RDC vient de mobiliser pour justement l'aider à développer des alternatives, créer des revenus tout en préservant l'environnement. Donc il y a une question des choix, des perspectives aussi, des capacités de négociation.
Il est bas, finalement, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Vers Goma, 120 policiers de la PNC formés sur la sécurisation des prisons, une première promotion dont la formation a duré 21 jours. La MONUSCO a été partie prenante par son appui technique et financier dans cette formation organisée par le ministère de la Justice. Marc Marofimbo pour les détails.
Les formés viennent de plusieurs commissariats de police du pays, notamment des commissariats de Kinshasa, du Sud et Nord Kivu, ainsi que celui de la province de l'Ituri. Tout au long de 21 jours, ces policiers ont été formés sur diverses matières, dont la sécurité intérieure des prisons et maisons d'arrêt. Tous les intervenants à la cérémonie ont reconnu que l'effectif, le matériel ainsi que la prime sont les trois facteurs qui concourent à la bonne sécurisation des maisons carcérales. Quant au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Ordre public et Affaires coutumières, il a insisté sur l'insuffisance de l'effectif formé et espère que les lauréats seront pris en charge pour pouvoir faire correctement leur travail. Valérien Mbalutirwandi.
C'est encore insuffisant, vous voyez, pour toute la République, si on doit avoir 120 policiers, avec tout ce que nous connaissons comme nombre de prisons, c'est encore insignifiant. Et sans outils, sans rémunération, il n'y a pas moyen. Mais nous croyons que le ministère de la Justice a aussi un budget pour ça. Je crois qu'ils ne seront pas les enfants les plus malheureux de la province.
La MONUSCO, qui a appuyé techniquement et financièrement cette formation, dit réitérer son engagement dans les démarches pour la réforme au sein de la police dans toutes ses composantes. Goma, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Renforcement des effectifs des casques bleus en RDC, c'est en tout cas la question posée mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Théophane Kinda, porte-parole ad intérim de la MONUSCO, répond.
Venant vous dire ça pour la RTNC, Monsieur Théophane, lors de la célébration de la journée internationale des casques bleus qui s'est déroulée le 29 mai, vous le savez bien, le représentant du gouvernement, Monsieur Tambwe Mwamba, ministre d'État et ministre en charge de la justice, a formulé la demande selon laquelle l'effectif de casques bleus serait revu à la hausse, contrairement aux allégations d'autres membres du gouvernement. Alors, la question que je me pose, est-ce que ce message de M. Tambwe Mwamba, figure influente de la politique dans notre pays, a été transmis? Ensuite, comment vous avez digéré ce message à votre niveau ici au quartier général de la MONUSCO?
Je crois que cette question, si ma mémoire est bonne, avait déjà été posée à cette même conférence et que M. Charles Bambara avait donné des éléments de réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que pour une telle requête, il y a tout un processus qui existe dans la communication pour ce genre de questions. Il y a, par exemple, que le ministre des Affaires étrangères peut certainement, quand il participe au Conseil de sécurité, il y a des réunions du Conseil de sécurité, il peut s'exprimer. Donc, pour l'heure, nous n'avons pas d'éléments d'information par rapport à la requête du ministre. Ce que je voudrais vous conseiller, c'est que pour cette question, vous puissiez tout simplement vous adresser à Monsieur le ministre ou bien au porte-parole du gouvernement.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Bienvenue Bagalois. Je suis marié et père de trois enfants et j'ai une épouse, bien sûr, et je suis trop attaché à ma famille. Par rapport à mon cursus scolaire, J'ai étudié à l'école d'application de l'UPEN et là j'ai obtenu un diplôme en littéraire et latin philo. Et quant à mon parcours académique, je suis allé pas loin mais juste à côté, donc à l'UPEN. Et dans le temps c'était IPEN, donc Institut Pédagogique National. Et j'ai terminé à UPEN, donc Université Pédagogique Nationale, où j'ai fait l'anglais et culture africaine. Et j'ai obtenu au cours de toute cette étude-là, donc une licence en anglais et en culture africaine. Voilà, et pour le moment, je suis aux ressources humaines à la MONUSCO. Faire depuis 2005, j'ai commencé en tant qu'interprète et j'ai travaillé avec les Uruguayens dans un contingent où on devait le traduire en français, anglais et puis espagnol. On a fait beaucoup d'années là en tant qu'interprète. Et donc c'était aussi pour les langues africaines. Et finalement, il y a eu juste un petit changement parce que on devait, dans l'entretemps, travailler avec les ressources humaines où chaque fois qu'il y avait des interprètes qui devaient être engagés, alors j'étais associé au panel pour les interviews en tant que spécialiste en langue. Et c'était ma part que je prenais pour les interviewer et puis sélectionner par la suite. Alors, il est arrivé à un moment donné, par rapport à l'abolition des postes, j'étais touché dans cet exercice-là. Mais lorsqu'on a demandé qu'on fasse l'expression d'intérêt, on a vu effectivement qu'il y avait quelque chose que j'avais fait avec les ressources humaines. Et c'est de en ce moment-là qu'on a pu m'engager. Donc, je suis revenu, on m'a placé, c'est ce que je dis, dans les ressources humaines. Et j'ai évolué là depuis 2014. En tant qu'assistant aux ressources humaines. Et là, c'était dans l'unité assistance aux clients. Donc, tous ceux qui sont comme agents des Nations Unies venaient pour tel ou tel problème et nous étions en train de les assister. 2 ans après, il y a eu un certain renouvellement et pour le moment, je suis en train de travailler dans l'organisation des postes. Mais dans l'entretemps, alors, on a eu aussi beaucoup de choses à faire, beaucoup d'enseignements, beaucoup de formations. En tant que tel, je suis expert donc en Umoja. C'est une application qui est utilisée dans les Nations Unies, une base de données de tous les personnels des Nations Unies, tant internationales que nationales. Chaque fois qu'il y a traitement de dossier dans les fonctionnalités, c'est moi qu'on contacte pour essayer d'aider les gens à pouvoir utiliser cette application-là. Alors, on reçoit tout le temps des appels. Voilà, je suis bloqué dans telle chose. Je ne peux pas faire telle autre chose. Je ne sais pas traiter tel dossier. Je ne sais pas voyager. Je ne sais pas enregistrer mon enfant. Je ne sais pas finalement enregistrer mon épouse. Alors, on est là, on le soutient. Et ça se passe bien. Nous venons à 8h30, mais personnellement, je préfère venir avant 8h30 pour voir les emails parce que d'habitude, il y a des gens qui vous envoient les emails à 4h du matin ou alors pendant le week-end. Vous devez être en mesure de voir, de lire, n'est-ce pas, ces messages et de savoir réagir. Donc, vous réagissez aussi rapidement avant de prendre votre journée, votre horaire et finalement travailler par rapport à votre emploi du temps. Donc, et là, chaque fois, c'est entre les appels et les urgences. Et voyez, ce sont les ressources humaines. Vous recevez les ordres et qui viennent ou des instructions qui viennent de votre superviseur hiérarchique. Entre ces instructions et puis les clients que vous recevez, et vous devez vraiment tout faire pour satisfaire à leurs besoins. J'ai plus évolué dans le domaine de l'enseignement avant d'être à la MONUSCO à 2005. Et là, en tout cas, l'enseignement, ça me connaît, c'est vraiment comme le fond de ma poche. Là, j'ai eu à enseigner à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Donc, par rapport à mon temps libre, il faut dire que je n'en ai pas vraiment. Je préfère plus passer le temps à l'église et avec ma famille, rester ensemble. Parce qu'on n'a pas toujours le temps avec les haricots, j'aime le riz, j'aime plus les légumes, le poisson et la viande, vraiment ça ne m'intéresse pas. La musique, j'aime la musique chrétienne, surtout le pasteur Atoms. Kiyote Masia Yesu, Melenasuka Wapi. Perspective d'avenir, un chien vraiment vivant et ça vaut plus que un lion qui est mort. J'aimerais vraiment continuer à être beaucoup plus professionnel, international, évoluer dans le système des Nations Unies, pourquoi pas dans une autre agence, et continuer à avoir d'autres ambitions, créer, être le patron de moi-même, et avoir une entreprise, un peu ça ce que je peux dire par rapport à mon...
le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Retenez ce rendez-vous pour la semaine qui commence. Le 13 juin, ce sera la célébration de la 3e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. À Kinshasa, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les ministères des Affaires sociales et des droits humains organiseront conjointement une série d'activités visant à sensibiliser la population congolaise sur les droits de cette catégorie de personnes. C'est la fin de ce magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Fina Salama, mise en nom par Dieudonné Nyangasa, Jean-Pierre Lalique aux côtés de la coordination, Noémie Ségantalala au reportage et à la réalisation sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à tous, très bonne suite des programmes sur Radio Capi. À bientôt, ciao.